Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. De nos jours, aucun système religieux n'est plus répandu que la religion morale. Pourtant, je suis presque persuadé que vous n'en avez jamais entendu parler. Question. Tout simplement, une sorte de religion basée sur l'idée de l'obtention du salut par les vertus d'une existence de bons citoyens, sans pour cela s'astreindre à devoir obéir à l'évangile de Christ et sans être un des membres de son corps. Cette religion n'est pas une secte à proprement parler, et ses adeptes ne tiennent aucune réunion régulière dans un bâtiment ou une église quelconque. Pourtant, des millions de personnes se fient entièrement sur elle pour être sauvées. Elles nous disent pratiquement tous les jours qu'à leur avis, il suffit d'être un bon voisin, un bon père de famille et d'être respectueux des lois de la société pour aller au ciel. Après tout, Dieu n'est-il pas infiniment bon, infiniment miséricordieux? Alors pourquoi aller chercher plus loin? Mais que dit la Bible au sujet de cette religion si répandue à la surface du globe? Toute question ayant trait à la religion doit être examinée à la seule lueur de la parole de Dieu, car elle seule contient la loi parfaite de l'Éternel. Vous êtes bien d'accord? Si la Bible enseigne qu'une bonne moralité est suffisante, alors nous pourrons considérer que puisque Dieu en a décidé ainsi, nous n'avons pas, nous pauvres êtres humains, à revenir là-dessus. Par contre, si elle nous dit qu'il faut plus que cela pour être sauvé, nous ne pourrons faire autrement que d'appliquer le même principe qui est d'accepter cet arbitrage divin. L'opinion des hommes nous importe peu, n'est-ce pas? C'est celle de Dieu qui compte. Vous êtes toujours bien d'accord. Partons maintenant ensemble à la découverte de la réponse à cette grave question. Voyons tout d'abord le cas de l'officier nommé Corneille, dont on nous parle dans le 10e et 11e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Il s'agit là d'un homme qui est même plus que moral. Et si quelqu'un devait pouvoir être sauvé, c'était bien lui. Il était dévot et pour le moins déférent quant à son attitude vis-à-vis de la religion. Il craignait Dieu ainsi que tous les siens. Et voilà quelque chose qui est presque extraordinaire, venant d'un homme qui n'est pas même juif. Il était également généreux puisqu'il faisait de nombreuses aumônes. Et en plus de tout cela, il prie continuellement. Voyons un peu comment ses propres serviteurs le décrivent auprès de l'apôtre Pierre qu'il a envoyé quérir. Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre ses paroles, disent-ils. Cela représente une description élogieuse, ne trouvez-vous pas? Pourtant, la Palestine est sous la domination romaine, et les membres des troupes d'occupation sont loin d'être populaires auprès de l'ensemble de la population. Pour qu'on dise tant de bien à un officier romain, il fallait qu'il sorte vraiment de l'ordinaire. La Bible nous enseigne cependant que Corneille était bel et bien perdu. Voilà qui ne doit pas être sans vous choquer, n'est-il pas vrai? Un jour, Corneille a une vision. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant l'Éternel et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. À la lueur de ces paroles, nous voyons donc clairement que Corneille, bien qu'étant moralement un excellent homme, a tout de même besoin d'être sauvé. L'exhortation de Pierre commence par ce qui est presque un avertissement. Dieu ne fait point exception de personne, dit-il, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il ne suffit donc pas que cet homme soit respectueux de Dieu, qu'il pratique de bonnes choses et même qu'il prie sans cesse. Non. Car la suite du récit, fait par le livre des Actes, nous montre Pierre lui enseignant Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et il est évident que l'apôtre touche profondément le cœur de tous ceux à qui il s'adresse et qui croient chaque mot de la doctrine du Fils de Dieu. Corneille était déjà très bon du point de vue moral, du point de vue de sa règle de vie, mais maintenant, il va devenir un croyant. Il est donc sauvé, pas vrai? Si Dieu est bon, miséricordieux, comment peut-il condamner un tel homme? Pierre n'a pourtant pas terminé ce qu'il est venu dire et faire dans cette maison. Il a encore quelque chose d'excessivement important à ajouter. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Voilà comment cet homme, dont pourtant les prières et les aumônes étaient montées devant Dieu, avait tout de même besoin d'être purifié des péchés qu'il a sur son âme. Seul le sang de Christ peut les effacer. Il n'est nullement sauvé avant d'être immergé dans les eaux baptismales. Beaucoup de gens croient dur comme fer que s'ils vivent droitement, ils auront ipso facto droit à la vie éternelle sans devoir obéir à l'Évangile. La Bible montre, et nous venons d'en voir un exemple, que rien n'est plus faux. Une bonne moralité est une des choses essentielles de la vie chrétienne, mais la moralité n'est nullement un gage de salut. Elle n'en est qu'un des éléments constitutifs. On dit que la moralité n'est que le vestibule de la religion, et que pour devenir de l'amour, l'amitié a besoin de ce que la moralité doit chercher dans l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire le feu de l'émotion. Supposons un instant qu'on puisse être sauvé rien que grâce à une vie vraiment morale. Que cela signifierait-il? Tout d'abord que le salut est accordé sans sauveur, c'est-à-dire sans Christ. Il existait nombre de gens très moraux avant sa venue, et il en existe encore parmi ceux qui, qui ne le connaissent pas. Si l'homme peut être sauvé par la seule vertu de sa bonne moralité, cela élimine d'office la nécessité d'un sauveur. Qu'enseigne le Nouveau Testament à ce sujet? L'ange avait annoncé au berger la nuit de la nativité. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il ne serait donc pas né? Ou s'il a réellement existé, il ne serait qu'un vilain imposteur? Et il ment quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Les apôtres auraient leur vie durant prêché la doctrine d'un charlatan et auraient enduré les persécutions et la mort pour une simple fiction. Eux aussi, alors, mentent quand ils proclament, en parlant du Fils de Dieu, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le Nouveau Testament nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » En Jean, Jésus enseigne « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. » Il existe des centaines d'autres passages de la Bible qui mettent l'accent sur l'absolue nécessité de cette foi en Christ. Jésus dit encore en parlant à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et pour les Silas, ordonne au geôlier de Philippe, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Il ne fait aucun doute que l'on doit avoir la foi en Christ pour être sauvé. Jamais une bonne moralité, qui n'est en réalité qu'une sorte de raison laïque, ne nous mènera à la vie éternelle. Croire en Christ doit être notre foi initiale. Le recevoir, c'est le conduire à destination. Le comprendre, c'est avoir une foi intelligente. L'assimiler, c'est mettre sa foi en action. S'il y a un moyen d'être sauvé simplement en étant moral, on peut également l'être sans obéir à Christ. Cependant, Paul nous avertit qu'un jour viendra où le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. En hébreu, on nous rappelle que Christ, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous venons donc de voir certaines des conséquences qu'entraîne cette conviction si répandue, hélas, qu'il suffit d'être bon, sincère, honnête pour aller un jour au ciel. Bien sûr, il faut être tout cela, mais pas rien que cela. Il faut en plus se convertir à Christ en ayant la véritable foi, celle qui pousse à agir, celle qui pousse à obéir, à se donner sans condition. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Connaissez-vous sa parole? Connaissez-vous ses enseignements? Oui, vraiment? Pourquoi ne commencez-vous, ne seriez-vous pas aujourd'hui même à étudier, à méditer davantage de cette Bible qui contient cette volonté infaillible de Dieu, sans laquelle vous ne pourrez jamais accéder à la vie éternelle? De méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement en tant car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130 Palma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31-130 Balma. Pour voir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, 9h. Le Seigneur, 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 le Seigne